Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces stars de l'histoire qui avaient le trac. Après Chopin et Yves Montand, Mathieu, vous nous brossez le portrait à 99% vrai d'une artiste plus proche de nous, très proche de notre cœur aussi, et qui nous écoute, et qui avait tellement le trac sur scène qu'elle a tout simplement arrêté de monter sur scène.
Oui, bah en même temps, Françoise Hardy, puisque c'est d'elle dont je vais vous parler, n'est pas du genre à tourner autour du pot. Quand elle a compris que son trac ne passerait pas, elle a décidé tout bonnement d'arrêter de se produire sur scène, c'était il y a 50 ans. On n'est vraiment pas égaux hein, devant le trac. On connaît tous, vous la rappelez tout à l'heure, la phrase de la grande actrice Sarah Bernhardt à une élève qui lui disait « ne pas connaître le trac ». Ne vous en faites pas, mademoiselle, ça viendra avec le talent. La pique est cinglante, on l'aime bien, mais elle n'est pas tout à fait exacte. Des contre-exemples existent, certains contre-exemples sont même à un mètre de moi et affichent un grand sourire satisfait. Oui, en matière voilà, de trac, Stéphane est l'antithèse absolue de Françoise Hardy, comme il nous le confiait récemment en antenne.
T'as toujours le trac, toi, Stéphane ?
Ah non.
Ou même pour des primes ?
Non, je m'en fous trop, je crois.
Aux antipodes de Stéphane, qui donc s'en fout trop, il y a donc Françoise Hardy, cas d'école de l'artiste incapable de surmonter son trac. Disons-le d'emblée, Françoise ne traquait pas qu'à moitié. On n'était pas dans du tracouné, genre « Ah oui, je vais me faire désirer un petit peu avant de monter sur scène, dites-moi combien vous m'aimez public ». Non, son trac à elle, c'est le vrai trac, hein, celui qui rend malade, qui file des sueurs froides et des palpitations. Son angoisse principale, les trous de mémoire. Il faut dire que dans la chanson, les trous de mémoire, c'est rédhibitoire, d'où la carrière avortée de Jean-Michel Amoitié.
Il ne chante que 50% de ses chansons préférées, c'est Jean-Michel Amoitié.
C'est un beau roman. C'est une romance.
Bon, je vous rassure, François, c'était moins grave. Hein. Mais lui, il est arrivé quand même d'avoir quelques trous de mémoire à Françoise, notamment à la télé, dans les émissions de Roger Lanzac, que je décrirai sommairement pour aller droit au but, comme le Stéphane Bern aux yeux pochés des années 60. On associe souvent trac et timidité. En fait, c'est plus compliqué que ça. Françoise Hardy n'est pas particulièrement timide dans la vie. C'est plutôt quelqu'un qui dit ce qu'elle pense, parfois sans prendre des pincettes. Un exemple, elle raconte qu'au début de sa carrière, quand elle se demandait quel label elle allait démarcher pour promouvoir son premier disque, elle s'est tournée vers Vogue. Après avoir entendu un titre de Johnny Hallyday sorti chez eux, elle raconte sans complexe qu'elle a trouvé le titre tellement mauvais qu'elle s'est dit en gros « bah s'ils prennent ça, ils peuvent bien me prendre aussi. Allez hop, tout le monde est rhabillé en une phrase, Johnny, elle et Vogue ». En fait, elle fait partie plutôt des gens qu'on peut qualifier de sans filtre, qui ne s'embarrassent pas des convenances. Françoise Hardy. Stéphane est de ceux-là, hein, comme nos invités en font parfois la mère expérience, quand leur interview terminée, ils émettent la possibilité de rester un peu avec nous.
Merci Laetitia Leguet. Je rappelle le titre de votre biographie, Serge Prokofiev, qui est paru aux éditions Actes Sud.
J'y vais ?
Oui.
Oui, c'est mieux. C'est mieux que tu dégages. Françoise Hardy aussi est cash comme vous, Stéphane. Même dans sa manière de gérer le trac qui l'a paralysé, là où d'autres vedettes dont la carrière décollée auraient choisi, je sais pas, la sophrologie ou la méditation, Françoise, elle, a tout bêtement décidé d'arrêter la scène. Plus de télé non plus, sauf en playback. On imagine mal une artiste annoncer ça à son label aujourd'hui, mais en 68, Françoise Hardy le fait et ça passe. Et depuis 50 ans, à quelques exceptions près, elle s'y tient. La question est donc la suivante. De quel type de trac souffrait Françoise Hardy au point de renoncer à la scène et à ce contact avec le public qui fait pourtant tout le sel de la vie d'artiste et dont Stéphane, personnellement, ne pourrait se passer ?
Bonjour, Joinville-le-Pont, bonjour à tous.
Alors, après littéralement des heures d'enquête, je vous l'avoue, à la Bibliothèque de médecine de Paris, section phobie, je dirais que notre Françoise souffre soit d'athélophobie, soit de catagélophobie.
Bien sûr.
Comme vous dites, bien sûr, Stéphane, je vous laisse nous expliquer ce que c'est.
Je ne sais pas.
Oui, alors,
c'est
il s'agit
bien
soit...
sûr que vous avez pris une autre émission.
Il s'agit soit de la peur de l'imperfection, de ne jamais être à la hauteur, soit la peur du ridicule. Alors après, on peut nuancer, c'est peut-être aussi plus une peur de l'échec, l'atikiphobie. Je vois que vous penchez plutôt vers ça. Ou alors, on fait fausse route et c'était de la glossophobie, la peur de parler en public, quoique non, parce que elle, c'est la peur de chanter. Ou alors, on n'a rien vu venir et c'était de la scopophobie, la peur d'attirer l'attention sur soi. À noter que le trac de Françoise Hardy n'est lié qu'au fait de chanter sur scène. En studio, elle est pépouse, Françoise. Peut-être le fait de savoir qu'elle peut refaire autant de fois qu'elle veut. Alors, d'où lui vient ce stress de la scène ? Peut-être de son enfance. Une drôle de vie familiale, un trio composé d'elle, sa mère et sa petite sœur. Pas de père, Si, mais pas vraiment en fait. Le père a une autre famille, ce sont des choses qui arrivent. Il y a la famille officielle et la clandestine. Celle de Françoise, c'est la clandestine. Est-ce que c'est ça qui la rend si discrète? En tout cas, elle est timide, sentimentale, enfermée dans un monde de livres et de chansons, écouter la radio. Sa nature effacée n'empêche pas une détermination à toute épreuve. En récompense pour son bac, elle demande une guitare et en intégrant la Sorbonne, elle commence à écrire des petites chansons. En 61, elle signe un contrat donc avec Vogue. L'année suivante, 62, est une grande année pour Françoise Hardy. Vous imaginez volontiers pourquoi, Stéphane?
À mon avis, elle a vu le loup.
Mais Stéphane,
c'est la chanson qu'elle déteste le plus,
elle
et tous les garçons.
Son premier 45 tours, elle la déteste, elle ne veut plus l'entendre.
Elle ne supporte pas.
45 tours qui est déjà sorti depuis quelques mois, quand le soir du 28 octobre 62, le grand public la découvre vraiment à la faveur du référendum sur l'élection au suffrage universel du président de la République. Les téléspectateurs attendent le résultat devant leur télé. Or, dans l'un des intermèdes musicaux, Françoise Hardy apparaît pour chanter sa future chanson préférée, Tous les garçons et les filles. À la fin de l'année, 500 000 exemplaires du 45 tours seront vendus. Françoise Hardy devient instantanément une étoile de la chanson française et ça n'a rien d'étonnant car les étoiles la fascinent au point qu'elle va s'initier à l'astrologie. Au cours des années 80, elle anime même sur Radio Monte-Carlo une série d'émissions consacrées à cette belle discipline. Curieusement, là, aucun trac, preuve que la phobie de Françoise ne concernait que le chant en public. On trouve quand même étrange qu'elle ait préféré abandonner définitivement la scène plutôt que d'essayer de vaincre son trac. Parmi les artistes célèbres, si on creuse un peu, elle est loin d'être un cas isolé. Hein. Goldman, par exemple, lui avait carrément des nausées à ses débuts. Son truc, c'était de se repasser les textes de ses chansons avant le concert pour être sûr. Aujourd'hui, les chanteurs ont trouvé une parade. Ils ont le karaoké qui défile devant eux sur un écran caché. D'autres grands noms de la musique avant elle ont eu un problème de trac. Ella Fitzgerald, Brel, on l'a dit, qui vomissait avant de monter sur scène, et même Paul McCartney. Il paraît qu'Adèle se tape aussi de belles crises d'angoisse avant certains concerts, qu'elle est suivie par un hypnothérapeute. Elle était totalement terrorisée à l'idée de chanter Skyfall aux Oscars en 2013. Il lui a fallu plusieurs séances d'hypnothérapie pour vaincre sa peur. C'était presque gagné jusqu'à ce qu'elle apprenne que Barbara Streisand était dans la salle. Or, c'est son idole absolue, elle était tétanisée. Quand on sait que Streisand elle-même a arrêté les concerts à partir des années 70 après avoir trop souffert du trac, on comprend que le trac est en fait le dénominateur commun de tous les chanteurs. Ensuite, chacun a sa petite combine pour le surmonter. Jay-Z, par exemple, déclare qu'un bon moyen, c'est d'imaginer le public à poil. Je ne sais pas si vous faites ça, Stéphane, quand vous présentez les victoires de la musique hors Covid, de nous imaginer à poil. En tout cas, c'est peut-être ce que vous faites avec nous. Quand vous regardez David, Olivier et moi avant l'émission, vous nous imaginez nus.
Les cordiformes, les chairs, le gras, les bourrelets.
Non, je vous en prie, Stéphane, Olivier n'est pas gras, il est juste un peu enveloppé. Enfin, chacun ses techniques pour déstresser avant une émission ou un concert.
Merci beaucoup, Mathieu. C'était 99% vrai. Il y a donc 1% de faux.
Vous avez détecté, puisque vous connaissez visiblement bien Françoise Hardy.
J'adore Françoise Hardy.
Vous la fréquentez, j'ai l'impression.
Écoutez, moi maintenant, parce qu'elle s'est un peu isolée, un peu, mais voilà, elle dit qu'elle souffre beaucoup. Mais c'est une femme incroyable, incroyable. Puis quel artiste.
Et quel artiste qui a réussi ce tour de force d'avoir une carrière et 28
elle
albums.
Elle est exigeante avec elle-même, donc avec les autres, et c'est assez légitime finalement.
Et vous êtes d'accord sur le fait qu'elle n'est pas timide en fait?
Elle n'est pas timide, non. Elle dit ce qu'elle pense et elle pense ce qu'elle dit.
Et c'est ça qui est étonnant pour quelqu'un qui a le trac à ce moment-là.
C'est ça qui est rafraîchissant. Mais chanter en public, c'est autre chose. Ouais. C'est assez, quelque chose d'assez violent quand même.
Vous en avez fait l'expérience.
Je ne sais pas chanter.
On a les archives. Oui, c'est bien pour ça que ça doit être assez stressant. Europe 1, historiquement vôtre.